Vous allez entendre un message de William Branham prêché le 15 mai 1960 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Ce message s'intitule « Le livre des Éphésiens est comparable à celui de Josué ».
Oh, we'll get into it directly, and all it's been hidden since the foundation of the world.
Amen.
He said, now that you've come into this, I'm addressing this to you. Not to those who just left Egypt. Not to those who are still in the journey. But to those who are in the promised land.
Amen.
That has received the promise. How many has received the promise of the Holy Ghost? Oh, aren't you glad that you're in the land?
Am I?
Over here now, eating the old corn, eating the strong things of God, and got a clear understanding. Your spiritual mind is all unmuddled up. You know exactly who He is. You know exactly what He is. You know exactly where you're going. You know exactly all about it. You know in whom you have believed and persuaded He's able to keep that which you've committed to Him against the day. Oh, that's the one. That's who Paul's talking to now. Listen close. Now watch. The faithful in Christ Jesus. Now let me have the church to repeat this. How...
Ce soir, nous avons parmi nous des amis qui viennent de loin, de la Géorgie. Ils reprendront probablement la route ce soir après avoir mangé. Certains viennent du sud. J'espère que vous allez rester jusqu'à demain. Nous avons des chambres à votre disposition. Puis, mercredi soir, nous continuerons cette étude et ensuite, Dieu voulant, encore dimanche prochain. Après cela, Chautauqua commence le 6. Ainsi, pour tous ceux qui ont fixé leurs vacances à ce moment-là, nous attendons des instants très bénis à Chautauqua. Nous avons toujours eu là-bas des moments extraordinaires. Avec un auditoire pas trop grand, je pense qu'on peut y mettre facilement 10 000 personnes. Mais d'habitude, comme par exemple l'année dernière, je pense que nous avions environ 7 000 personnes. Il y avait foule, mais il y avait beaucoup de place debout, et on peut ajouter des sièges jusque dehors s'il le faut. Ainsi, nous nous réjouissons d'avance. Ce soir, nous sommes contents de voir beaucoup de nos frères dans le ministère. Je n'arrive jamais à me rappeler de son nom. Ici, le missionnaire. Ah, frère Humes. Sœur Humes, est-ce vous qui êtes assis ici avec les petits? Nous sommes contents de les avoir. Un missionnaire. Il y en a d'autres. Frère Pat, frère Dalton et tant d'autres. Frère Biller. J'ai vu frère Collins il y a quelques instants. Oh, ce serait difficile de les désigner tous. Mais nous sommes très heureux de vous avoir dans la maison du Seigneur ce soir. Il y a notre très cher frère Neville qui est assis ici derrière moi pour prier pour moi pendant que nous enseignerons la parole. Charlie, je suis content de te voir avec sœur Nelly et les petits. Ceci est un enseignement de la Bible. C'est généralement très... Voici frère Welch. Je vous cherchais justement et je viens de vous voir assis là au fond. L'enseignement de la Bible est généralement un peu périlleux. Vous savez... comme le fait de marcher sur une fine couche de glace. Mais nous sentons qu'en ce moment, ce serait peut-être bon d'amener l'Église à une parfaite compréhension de la position que nous avons en Jésus-Christ. Prêcher, c'est certainement merveilleux. Mais je crois parfois, frère Biller, qu'enseigner va plus loin que cela. Cela spécialement pour l'Église. La prédication saisit généralement le pécheur, l'amène sur la condamnation par la parole. Mais l'enseignement place l'homme dans sa position. Nous ne pouvons jamais avoir la foi correcte avant de connaître notre position. Si le beau pays que sont les États-Unis m'envoyait officiellement en Russie comme ambassadeur, toute la puissance des États-Unis serait derrière moi. Ma parole serait pareille à celle des États-Unis si j'avais été reconnu comme ambassadeur. Alors, si Dieu nous a envoyés pour être ses ambassadeurs, toute la puissance qui est dans les cieux, tout ce que Dieu représente, tous ses anges et toute sa puissance se tiennent derrière notre parole en tant que ses messagers correctement ordonnés et envoyés. Dieu doit honorer sa parole, car il a écrit solennellement que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et que tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel, et je te donnerai les clés du royaume. Oh, quelle grande promesse il a faite à l'Église. Beaucoup d'entre vous, je suppose, étaient ici ce matin et m'ont entendu essayer d'expliquer humblement et simplement la vision que j'ai eue du ciel. En aucun cas, je n'essaierai, ne serait-ce une fois, de douter de ce que quelqu'un me rapporterait au sujet de ce que Dieu lui a dit. Je le crois même si je ne l'ai pas vu dans l'Écriture. Je serai toujours prêt à croire la parole de ce frère. Je resterai peut-être aligné avec la Bible, mais néanmoins, je croirai que ce frère a peut-être mal compris et qu'il a mélangé un peu. Il n'en serait pas moi mon frère. Et si quelque chose brûle dans mon cœur, j'espère que cela continuera dans les années à venir et que je n'oublierai jamais ce qui m'est arrivé dimanche matin, il y a une semaine. Cela a révolutionné ma vie. Je ne crains pas, je n'ai aucune crainte de la mort. La mort, elle, n'a pas peur, elle ne devrait pas vous effrayer, si vous compreniez simplement. Peut-être que si vous deviez en faire l'expérience, pour le savoir, parce qu'il n'y a aucun moyen de l'expliquer ou de m'en apporter, parce que cela ne se trouve pas dans le lexique anglais, ni dans aucun autre dictionnaire, car il s'agit de l'éternité. Pas d'hier, pas de demain, tout est au présent. Ce n'est pas « je me sens assez bien maintenant, et dans une heure je me sens moins bien, et une heure plus tard je me sentirai de nouveau mieux ». C'est tout le temps au présent. Voyez-vous, jamais d'interruption, seulement cette paix glorieuse. Et là, il ne peut y avoir aucun péché, aucune jalousie, aucune maladie, rien ne peut jamais atteindre cette terre céleste. Et si j'ai le privilège de dire ceci, si je ne l'ai pas, alors je prie Dieu de me pardonner. Mais si j'ai ce privilège et si Dieu a permis que je sois enlevé pour me montrer quelque chose, je me référerai au premier ciel. Et je crois qu'il y eut un homme dans la Bible appelé, je crois que c'était Paul, qui fut ravi jusqu'au troisième ciel. Et si c'était à ce point glorieux dans le premier ciel, que devait contenir le troisième ciel? Ce n'est pas étonnant qu'il n'ait pas pu en parler pendant 14 ans. Il dit qu'il ne savait pas s'il était dans ce corps ou hors de son corps. Avec ce grand apôtre, sans vouloir en rien toucher à son ministère ou essayer de l'imiter, je peux dire avec lui que je ne sais pas si c'était dans ce corps ou hors de ce corps. Seulement, c'était aussi réel que de vous regarder. Je me suis toujours demandé, Après la mort, si je devais voir un petit nuage flotter, un esprit, et dire, voilà frère Charlie et sœur Nelly qui passent. Là-bas, ce sont frère et sœur Spencer. Cela m'a toujours troublé à la pensée que si mes yeux sont en train de pourrir dans la tombe, et mes oreilles plus là pour entendre, et que mon sang est complètement disparu, que mon corps repose au fond des eaux ou dans la terre, que mes facultés mentales, les cellules de mon cerveau aient tout disparu, alors comment pourrais-je être autre chose qu'un esprit qui flotte de gauche et de droite? Cela m'inquiétait fort. Combien j'aurais désiré dire « Bonjour, frère Pat. Oh, je suis si content de vous revoir. Bonjour, frère Neville. Combien j'aimerais vous voir. » Mais je pensais, eh bien, si je n'ai rien qui permette de voir, ni de bouche pour parler, que tout soit en décomposition et soit retourné à la poussière, comment pourrais-je dire « Bonjour, frère Pat. Bonjour, frère Neville, etc. Comment va Charlie ?» Mais maintenant, je sais que c'est faux, car il est écrit dans les Écritures, et je ne vous ai jamais prêché autre chose, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend. Une autre tente qui a des yeux, des oreilles, des lèvres, des facultés mentales. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons un autre corps qui attend, qui a la faculté de sentir et de parler. Il me revient maintenant à l'esprit que Moïse reposait dans une tombe inconnue depuis 800 ans, et qu'Élie était monté au ciel 500 ans plus tôt, quand sur la montagne de la Transfiguration, il les vit parler avec Jésus. Trois à cinq ans après la mort de Samuel, la sorcière d'Endor le fit monter. Et lorsqu'elle le reconnut, elle tomba sur sa face en s'écriant, « Tu m'as trompé, car tu es Saül toi-même. » Puis elle ajouta, « Je vois des dieux. » C'était une païenne, voyez-vous. « Je vois des dieux qui montent de la terre. » Et Saül ne pouvait pas encore le voir, mais il dit, « À quoi ressemble-t-il? Décris-le-moi. » Elle répondit, « Il est mince, et il est enveloppé d'un manteau. » Il dit, « C'est Samuel, le prophète. Faites-le venir ici devant moi. Je veux que vous remarquiez que Samuel n'avait rien perdu de sa personnalité. Il était toujours un prophète. » Il dit à Saül exactement ce qui arriverait le lendemain. Ainsi, voyez-vous, la mort ne vous amoindrit pas complètement, alors que nous pleurons et gémissons et nous lamentons sur la tombe. Cela change seulement notre lieu d'habitation. Cela nous transporte d'un endroit à... Qu'est-ce que l'âge? Si je vis une heure de plus, je survivrai à beaucoup de personnes de 16 ans. Je survivrai à beaucoup d'enfants de 5 ans. L'âge n'est rien. Nous sommes simplement placés ici dans un but, pour faire quelque chose. Maintenant, beaucoup de ces mères, aux visages bienveillants, assises là, qui ont peut-être 60 ou 70 ans, pourraient dire, « Eh bien, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait, frère Branham? Vous avez élevé vos enfants. Vous avez fait ce que vous étiez censé faire. Peut-être qu'un vieux papa dira, « Eh bien, j'ai labouré les champs. Mais je n'ai jamais prêché, mais vous avez rempli parfaitement la tâche pour laquelle Dieu vous avait envoyé. Il y a une place pour vous. » J'ai parlé hier à un vieux docteur. Il connaît très bien l'un de mes amis. Il a autour des 80 ans. Et sa belle-sœur est ici ce soir. Elle était quelque peu inquiète à son sujet. Je suis allé le voir, et aussitôt que j'ai commencé à lui parler, il s'illumina et me fit le récit d'une tournée de chasse qu'il avait faite de nombreuses années auparavant dans le Colorado, la même région dans laquelle je chasse. Il était aussi brillant et vif, Et je lui demandais, « Docteur, depuis combien de temps avez-vous pratiqué ?» Il répondit, « Quand vous preniez le sein. » Et je dis souvent, il dit, « En ce temps-là, je me déplaçais dans mon baggy ou à cheval. Je fixais alors mes sacoches à la selle. Il m'arrivait d'aller à pied. J'ajoutais, oui, le long de la rivière, à 2 heures du matin, avec une lampe de poche, pour essayer de repérer la maison où se trouvait un petit enfant souffrant de maux d'estomac ou une mère dans les douleurs. C'est vrai. Et je dis, vous savez, docteur, je crois que de l'autre côté de cette ligne de démarcation, entre ce qui est mortel et l'immortalité, Dieu a un endroit pour les bons vieux docteurs qui ont servi de cette manière. De grosses larmes remplirent ses yeux et il commença à pleurer. Il tendit sa main faible et dit, « Frère, je l'espère, à travers le pays, Dieu juge l'âme d'un homme, ce qu'il est. » Puis je lui apportais cette écriture réconfortante. Souvent, il avait eu à traverser des champs sombres et boueux, en pleine nuit pour essayer d'aider quelqu'un, peut-être sans jamais en recevoir un centime en retour. Mais cela ne fait rien. Je lui dis que Jésus avait déclaré dans l'écriture, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Et c'est vrai. À partir de ce soir, nous voulons placer l'Église dans ces 3 leçons, si Dieu le permet. Comment et à quoi il faut s'attendre, ce que nous sommes. Nous allons commencer au 1er chapitre de la lettre de Paul aux Éphésiens. Et nous étudierons les 3 premiers chapitres dans ces 3 réunions, essayant de prendre un chapitre chaque fois si possible. Ce soir, mercredi et dimanche matin prochain. Éphésiens chapitre 1er. Maintenant, alors que nous étudions cela ensemble, j'aimerais dire ceci. Ce livre des Éphésiens est parfaitement comparable à celui de Josué dans l'Ancien Testament. Les Éphésiens, le livre des Éphésiens, maintenant sachez que s'il devait arriver que nous soyons un peu en dehors de l'enseignement que vous avez reçu, pardonnez-nous et supportez-nous quelques instants. Avant que nous ouvrions la parole, demandons-lui de nous aider alors que nous inclinons nos têtes. Seigneur, nous nous approchons de ton écriture sainte et sacrée, qui est plus sûre que tous les cieux et la terre. Car nous lisons dans cette parole, appelée la Bible, qu'à la fois les cieux et la terre passeront, mais que ta parole ne faillira jamais. Alors, à cette heure solennelle à laquelle je viens à cette chaire ce soir, devant le rachat de ton sang, ces précieux mortels bien-aimés sont ici pour saisir avidement chaque petit espoir qu'ils luit sur leur chemin, afin de se maintenir en vue de cette vie à venir. Puisse cela être si suffisant ce soir que chaque croyant ici verra sa position et que tous ceux qui ne sont pas encore venus dans cette grande fraternité vont se hâter vers le royaume, Seigneur, et frapper à la porte jusqu'à ce que le gardien ouvre. Accorde-le, Seigneur. Nous lisons là que cette Bible ne peut être un objet d'interprétation particulière. Que Dieu me garde, moi, ton serviteur, ou n'importe quel autre serviteur, d'essayer d'apporter notre propre interprétation à la parole. Lisons-la simplement et croyons-la telle qu'elle est écrite. Et spécialement nous, bergers de troupeaux, nous, pasteurs, qui un jour serons rassemblés là-bas dans ce pays glorieux avec nos petits troupeaux, nous nous tiendrons dans la présence du Seigneur Jésus. Et nous verrons chaque génération apparaître, celle de Paul, de Pierre, de Luc, de Marc, de Matthieu et de tous les autres. Et nous verrons qu'ils seront jugés là avec leur groupe. Ô Dieu, permets que je puisse déposer 10 millions de trophées à tes pieds. Je m'avancerai humblement et je poserai mes mains sur tes pieds précieux en disant, « Seigneur, ils sont à toi. Ô Dieu, Remplis-nous fraîchement de ton esprit, de ton amour, de ta bonté. Et puissions-nous partager pleinement les sentiments exprimés par ce poète, il y a de nombreuses années, dans ce chant, bien-aimé agneau qui meurt, ton précieux sang ne perdra jamais sa puissance, jusqu'à ce que toute l'Église rachetée de Dieu soit sauvée pour ne plus pécher. Et depuis ce moment-là, par la foi, j'ai vu ce ruisseau sortant de tes blessures. L'amour rédempteur a été mon thème. Elle sera jusqu'à ma mort. Puis, dans un chant très noble et doux, il continue en disant, « Je chanterai ta puissance qui sauve, quand cette pauvre langue zédayante et bégayante restera silencieuse dans la tombe. La mort ne peut retenir tes enfants dans la tombe. C'est seulement un endroit de repos, une cachette, car cette corruption revêtira l'incorruptibilité. Puissions-nous ce soir voir ceci, Seigneur, clairement, comme cela nous l'est donné dans la parole. Donne-nous la compréhension et place-nous, Seigneur, à notre poste de devoir, afin que nous puissions te servir fidèlement jusqu'à ta venue. Nous te le demandons au nom de Jésus et par amour pour lui. Amen. Le livre des Éphésiens, comme je viens de le dire, est à mon avis l'un des plus beaux livres du Nouveau Testament. Il nous conduit plus loin, là où le calvinisme reste en plan d'un côté et l'arminianisme de l'autre. Mais le livre des Éphésiens réunit cela et place l'Église dans sa position. Maintenant, je l'ai typifié avec Josué. Si vous remarquez, Israël fut conduit hors d'Égypte et leur voyage se fit en trois étapes. L'une d'elles était leur départ d'Égypte, la suivante, la traversée du désert, et ensuite, leur entrée dans le pays de Canaan. Canaan ne représente pas le millénium. Il représente seulement l'âge du vainqueur. La dispensation où l'on vint, parce que dans Canaan, ils tuèrent, brûlèrent et prirent des villes. Mais il n'y aura pas de mort dans le millénium. Mais ce que cela a produit, c'est la justification par la foi, après avoir cru en Moïse et quitté l'Égypte, la sanctification pour s'être trouvé sous la colonne de feu et l'expiation de l'agneau sacrificatoire dans le désert, et ensuite, l'entrée dans le pays qui avait été promis. Maintenant, quelle est la terre promise pour le croyant du Nouveau Testament? La promesse est le Saint-Esprit. Car dans les derniers jours, dit Joël 2:28, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, elles prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, des colonnes de feu, de fumée, de vapeur. Et Pierre, le jour de la Pentecôte, après avoir pris son texte et prêché, dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission, pour remettre, pour pardonner, pour enlever toutes les anciennes offenses. » Avez-vous remarqué ce que fit Josué avant qu'il traverse le Jourdain? Josué dit, « Traversez le camp et lavez vos vêtements. Sanctifiez-vous et qu'aucun homme ne s'approche de sa femme, car dans trois jours, vous verrez la gloire de Dieu. » Voyez-vous, c'est un processus de préparation pour hériter de la promesse. Maintenant, la promesse pour Israël, c'était que Dieu avait donné à Abraham la promesse qu'ils hériteraient de la Palestine, leur possession pour toujours, et que c'est là qu'ils devaient rester. Il y a trois étapes pour arriver à cette terre promise. Maintenant, observez comme c'est parfaitement typifié dans le Nouveau Testament. Maintenant, ceci, comme je l'ai dit, est en désaccord avec certaines de vos pensées. Certains de vous, précieux Nazaréens, Église de Dieu, etc., ne laissez pas ceci vous blesser. Faites attention, observez les types et regardez si tout ne correspond pas parfaitement. Leur voyage s'est accompli en trois étapes. Il en est de même pour nous. Premièrement, nous sommes justifiés par la foi en croyant au Seigneur Jésus-Christ, abandonnant le pays d'Égypte, sortant de là. Et ensuite, nous sommes sanctifiés au travers de l'offrande de son sang, lavés de nos péchés pour devenir des pèlerins et des voyageurs à la recherche d'un pays, d'une ville qui doit venir d'une promesse. C'est pareil à Israël dans le désert, un peuple de voyageurs. Pas d'endroit où se reposer, voyageant nuit après nuit en suivant la colonne de feu, mais finalement, ils arrivèrent à la terre promise, où ils s'établirent. C'est là le chemin du croyant. Il vient premièrement au point où il reconnaît qu'il est un pécheur. Alors, il est séparé par les eaux, par le lavage d'eau, par le sang, ou plutôt par le lavage d'eau, par la parole, en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, étant justifié par la foi, il devient un participant en paix avec Dieu au travers de Christ, et baptisé au nom de Jésus-Christ pour être inclus dans le voyage. Le comprenez-vous? Dans le voyage, alors il devient un voyageur et un pèlerin. Il se dirige vers quoi? Une promesse que Dieu a faite. Israël n'avait pas encore reçu la promesse, mais ils étaient en route. Ne vous levez pas, s'il vous plaît, mais comprenez. C'est là où vous, Nazaréens et pèlerins de la sainteté, etc., êtes tombés, parce qu'Israël, quand ils arrivèrent à Kadesh-Barnéa, quand les espions passèrent de l'autre côté dire « Le pays est bon », certains d'entre eux revinrent et dirent « Nous ne pouvons pas le prendre parce que les villes sont fortifiées ». Mais Josué et Caleb s'opposèrent et dirent « Nous sommes plus que capables de le prendre ». Quant aux autres, à cause de leur profession de foi signée, ils croyaient dans deux œuvres de la grâce, la justification et la sanctification, mais ils ne pouvaient pas aller plus loin. Écoutez, cette génération entière périt dans le désert. Alors que Josué et Caleb, qui étaient allés dans la terre promise, rapportèrent l'évidence que c'était un bon pays et que nous étions plus que capables de le prendre, parce que c'était la promesse de Dieu. Alors au lieu que les gens continuent à avancer et à recevoir le Saint-Esprit, à parler en langue, à recevoir la puissance de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, des signes, des miracles, ils eurent l'impression que cela allait démolir leur tradition et leur doctrine. Et que leur arriva-t-il? Ils périrent à cet endroit. C'est vrai. Mais les croyants, l'unité de Caleb et Josué, qui continuaient à avancer vers la promesse, entrèrent dans le pays, le prirent et s'y établirent, le considérant comme leur possession. Ne nous arrêtons jamais à la justification, à la sanctification, continuons vers le baptême du Saint-Esprit. Ne nous arrêtons pas après avoir cru au Seigneur Jésus et après avoir été baptisés. Ne nous arrêtons pas parce qu'il nous a purifiés d'une vie de péché, mais maintenant, hâtons-nous vers notre position, vers la promesse du baptême du Saint-Esprit. Car Pierre a dit le jour de la Pentecôte, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. Ainsi, Éphèse se trouve dans la même position que Josué. Avez-vous remarqué que Josué, après être entré dans le pays et après l'avoir pris, le morcela? Éphraïm ici, Manassé là, et celui-ci ici, Gad là, Benjamin ici. Il divisa le pays. Et notez ceci, Oh, cela enflamme notre cœur. Chacune de ces mères hébreuses qui donnèrent naissance à ces enfants prononcèrent dans leur douleur l'endroit même où ils seraient placés dans la terre promise. Oh, c'est une merveilleuse étude. Si nous entrions dans les détails, cela prendrait des heures et des heures. Un jour, quand notre église sera préparée, j'aimerais revenir et rester un mois ou deux là-dessus. Observez chacune de ces mères. Quand elle appela l'un d'eux Éphraïm, étant alors en travail, elle le plaça où ses pieds se trouvaient. Elle fit exactement ainsi pour chacun d'eux, à l'endroit même où il se trouvait à sa naissance. Josué ne le savait pas, mais c'est par inspiration, conduit par le Saint-Esprit, après être entré dans la terre promise, qu'il donna à chaque homme sa promesse, venant confirmer exactement ce que le Saint-Esprit avait promis à la naissance, là-bas. Nous voyons comment Dieu en a placé certains dans l'Église, au travers des douleurs de l'enfantement. Oh, c'est si glorieux! Cela arrive parfois quand une Église soupire, étant persécutée par le monde extérieur, et croit au Seigneur Jésus, ainsi que dans la promesse du Saint-Esprit, aussi réelle pour nous qu'elle ne l'était à la Pentecôte, combien ils soupirèrent et crièrent pendant ces douleurs de l'enfantement. Mais quand ils sont nés et placés dans le royaume de Dieu, alors le Saint-Esprit établit dans l'Église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, docteurs, pasteurs ou évangélistes. Puis il donne le parler en langue, l'interprétation des langues, la connaissance, la sagesse, le don de guérison et toutes sortes de miracles. Où l'Église est maintenant, voici le but que je poursuis en faisant cela. L'Église essaie toujours de prendre la place de quelqu'un d'autre. Mais ne le faites pas. Vous ne pourrez jamais cultiver du maïs sur le terrain d'Éphraïm si vous êtes Manassé. Vous devez prendre votre place en Christ, prendre votre position. Oh, cela devient profond et riche quand nous en arrivons là. Nous pouvons voir que Dieu en a mis un dans l'Église pour parler en langue, un autre pour... Maintenant, on nous a souvent enseigné que nous devions tous parler en langue. C'est faux. Que nous devions tous le faire. Non, ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas tous fait une même chose. Chacun devait... Le pays avait été donné et réparti par inspiration, et chacun, je pourrais prendre les Écritures et vous montrer exactement qui les a mis à l'endroit où ils étaient censés être, dans leur position, montrant que les deux demi-tribus devaient rester de l'autre côté de la rivière, là où leur mère avait manifesté leur désir à leur naissance, et comment chaque endroit était censé être. Maintenant, après que vous soyez entrés, cela ne veut pas dire que vous soyez libérés de la guerre. Vous devez toujours vous battre pour chaque centimètre de terrain sur lequel vous vous tenez. Ainsi voyez-vous, Canaan ne représentait pas le ciel à cause de ses guerres, de ses troubles, de ses mises à mort, de ses complots, etc. Mais il représentait ceci, une marche parfaite. C'est là où l'Église faillit aujourd'hui, à cause de cette marche. Saviez-vous que votre propre conduite peut empêcher quelqu'un d'être guéri. Votre mauvaise conduite et vos péchés inconfessés de vous croyants peuvent être cause de la faillite de cette Église. Et au jour du jugement, vous en serez tenu entièrement responsable. Oh, vous dites, maintenant attendez une minute, frère Branham, mais c'est la vérité. Pensez-y. Josué, après qu'il eut traversé le Jourdain et fut entré dans le pays, Dieu lui donna la promesse que, pensez à cela, combattre pendant toute une campagne sans perdre un seul homme, sans une égratignure, sans qu'une infirmière n'ait eu à intervenir ou qu'un secours fût nécessaire. Dieu dit, le pays t'appartient, va combattre. Pensez, aller à la guerre sans qu'il fût nécessaire de faire appel à la Croix-Rouge, sachant que personne ne serait blessé. Ainsi, ils tuèrent les Amoréens et les Héthiens, mais il n'y eut pas un seul homme blessé parmi eux. Jusqu'à ce que le péché entre dans le camp. Et quand Achan prit ce manteau de Shinéar et ce lingot d'or, et qu'il les cacha sous sa tente, le jour suivant, ils perdirent 16 hommes. Josué dit, « Arrêtez, arrêtez, attendez une minute, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas ici. Nous allons proclamer un jeûne de 7 jours. Car Dieu nous a donné la promesse que rien ne pourrait nous nuire et que nos ennemis tomberaient à nos pieds. Il y a donc quelque chose de faux par ici. Quelque chose de faux à quelque part. Parce que nous avons là 16 hommes qui sont morts. Ce sont des frères israélites et sont morts. Pourquoi sont-ils morts? Des hommes innocents, parce qu'un homme est sorti de la ligne. Voyez-vous la raison pour laquelle il est nécessaire d'enseigner ceci? L'Église doit s'aligner. Elle doit s'aligner avec la parole de Dieu. Elle doit s'aligner avec Dieu et les uns avec les autres. Marchons droitement, sobrement devant tous les hommes. Craignons Dieu. Ainsi, à cause d'un homme qui avait volé un vêtement et fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, cela enleva la vie à 16 hommes. Je crois que c'était 16, peut-être plus. Je crois que c'est 16 hommes qui sont morts. Jésus les appela et déclara, « Il y a quelque chose de faux. Dieu nous a donné la promesse. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Nous faisons venir les malades devant nous, et ils ne sont pas guéris. Nous devons publier un jeûne solennel. Faites un rassemblement. Quelque chose ne va pas quelque part. Dieu a donné la promesse. Il tiendra sa promesse. Il le fera. » Et ils publièrent un jeûne. Et ils découvrirent que le sort tomba sur un corps qui fit une confession entière. Ils le tuèrent ainsi que toute sa famille, puis ils les brûlèrent avec tous leurs biens. En signe de mémorial, ils élevèrent là un monceau de pierre. Puis Josué repartit à l'assaut. Prenons tout sans une blessure ou une égratignure. Vous y êtes. Un jour, il avait besoin d'un peu plus de temps. Le soleil se couchait et de nuit les hommes ne pouvaient pas se battre correctement. Ainsi Josué, ce grand guerrier, loin de Dieu, est placé dans le pays, comme les Éphésiens pour la nouvelle Église. Possédant le pays, après l'avoir conquis, avait besoin de plus de temps pour combattre. C'est pourquoi il s'écria, « Soleil, arrête-toi !» Elle s'arrêta pendant environ 12 heures, jusqu'à ce qu'il eût pris le pays. Voyez-vous? Le livre des Éphésiens nous place dans notre position en Christ, comme ils le furent dans la Terre Sainte. Nous ne sommes pas placés dans la Terre Sainte, mais dans le Saint-Esprit. Maintenant, lisons un passage de la parole. Voyez combien l'Église est parfaite. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Oh, j'aime cela. Dieu fit de lui un apôtre. Aucun ancien ne lui imposa les mains, aucun évêque ne l'envoya quelque part, mais Dieu l'appela et fit de lui un apôtre. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints, à ceux qui sont sanctifiés, qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Observez comment il introduit cet épître. Il ne l'adresse pas aux incroyants, mais à l'Église. C'est destiné à ceux qui ont été appelés et qui sont sortis, aux sanctifiés qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, si vous voulez savoir comment nous entrons en Jésus-Christ, lisez en Corinthiens 12. Il est dit, dans un seul esprit, nous avons été tous baptisés pour former un seul corps. Comment? Baptisés par quoi? Le Saint-Esprit. Pas par le baptême d'eau, comme vous le croyez, gens de l'Église de Christ, mais par un seul, E majuscule, S-P-R-I-T. Par un seul esprit. Pas par une poignée de main, ou une lettre de recommandation, par une aspersion, mais par un seul esprit. Nous sommes tous baptisés pour former un seul corps, notre possession, la terre que Dieu nous a donnée pour y vivre. le Saint-Esprit, de même qu'il a donné Canaan aux Juifs, il nous a donné le Saint-Esprit. Dans un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Le saisissez-vous? Maintenant, il parle aux habitants du Canaan spirituel. Israël, l'Israël spirituel, qui est en possession du pays. Oh, n'êtes-vous pas content d'être sorti de l'ail de l'Égypte? N'êtes-vous pas content d'être sorti du désert? Et souvenez-vous qu'ils durent manger de la manne, de la nourriture d'anges venant du ciel, jusqu'à ce qu'ils aient passé de l'autre côté et soient entrés dans le pays. Lorsqu'ils furent de l'autre côté, la manne cessa de tomber. Ils étaient alors entièrement maturité. Elles mangèrent le blé du pays. Maintenant que vous n'êtes plus des bébés, maintenant que vous ne supportez plus la censure du lait de l'Évangile, sachant que vous n'avez plus à être dorloté, flatté et persuadé de venir à l'Église, maintenant que vous êtes de véritables chrétiens, entièrement mûrs, vous êtes prêts à manger de la nourriture solide. Vous êtes prêts pour entrer dans quelque chose qu'il a promis. Vous êtes prêts à comprendre quelque chose de profond et riche. Nous allons y pénétrer immédiatement. Oh, cela était demeuré caché depuis la fondation du monde. Il dit, maintenant que vous êtes entrés, c'est à vous que je m'adresse. Pas à ceux qui viennent de quitter l'Égypte, pas à ceux qui sont toujours en route, mais à ceux qui sont dans la terre promise et qui ont reçu la promesse. Combien ont reçu la promesse du Saint-Esprit? Oh, n'êtes-vous pas content d'être dans le pays? Étant ici, maintenant, et mangeant le blé, mangeant la nourriture solide de Dieu, ayant une bonne compréhension, votre intelligence spirituelle n'étant plus embrouillée, vous savez exactement qui il est, vous savez exactement ce qu'il est, vous savez exactement où vous allez, vous savez exactement tout ce que cela concerne, vous savez en qui vous avez cru et vous êtes persuadé qu'il a la puissance de garder votre dépôt jusqu'à ce jour-là. Oh, c'est à celui-là que Paul parle maintenant. Écoutez attentivement. Maintenant, regardez. Les fidèles en Jésus-Christ. Maintenant, laissez-moi demander à l'Église de répéter ceci. Comment entrons-nous en Christ en joignant l'Église? Non. En mettant notre nom dans un livre? Non. En étant baptisé par immersion? Non. Comment entrons-nous en Christ? Dans un seul Saint-Esprit. Nous sommes tous baptisés dans une promesse, le corps. Et nous sommes les bénéficiaires de tout ce qui appartient à ce pays. Amen. Oh, j'aime cela. Si je n'étais pas enroué, je pourrais crier. Oh, quand j'entre dans ce pays, il m'appartient. Je suis maintenant chez moi. Je suis dans Canaan. Je suis disponible pour tout ce à quoi Dieu veut m'utiliser. Je marche sur une terre sainte, tel un enfant de roi, revêtu d'une robe, et prêt. Je suis sorti d'Égypte, je suis monté vers la terre promise, j'ai supporté les épreuves, j'ai passé par-dessus le Jourdain, et je suis entré dans cette promesse bénie. Oh, comment est-ce que je la reçois? Par un seul esprit, de la même manière que Paul l'a reçue. Cela agit sur moi de la même manière que sur lui, de la même manière que sur vous. Dans un seul esprit, nous sommes tous baptisés, non pas aspergés sur lui, de la même manière que sur vous. Dans un seul esprit, nous sommes tous baptisés, non pas aspergés par quelques agréables petites gouttes d'eau, mais sont immergés. Oh, nés pour être immergés dans le Saint-Esprit. C'est la promesse. Nos Éphésiens, notre Josué, qui est le Saint-Esprit, Josué signifie Jésus Sauveur. Yeshua signifie le Saint-Esprit, représenté dans le spirituel comme dans le naturel. Il est notre grand guerrier. Il est notre grand conducteur, comme Dieu l'était pour Josué. C'est ainsi que Dieu est dans le Saint-Esprit et qu'il nous anime. Et quand le péché entre dans le camp, le Saint-Esprit exige un arrêt. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette Église? Quelque chose ne va pas. Oh, ne pouvez-vous pas voir que nous avons trop de fils de Kis maintenant, trop de Saül, qui viennent de séminaires et d'écoles de théologie et qui vont enseigner des choses perverties, comme l'a prédit la Bible, n'ayant apparemment pas la foi, ils se séparent de vous et ne veulent plus fraterniser, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne peuvent justifier leur conduite. Je rapporte ceci de frère Booth Cliburn, qui est un de mes amis. S'il y a quelque chose qui est illégitime et d'impie dans le monde, c'est bien un mulet. Un mulet est la chose la plus basse de toutes. Il ne sait pas ce qu'il est. Il ne peut pas se reproduire. Un mulet ne peut pas s'unir à un autre pour engendrer un mulet. Il est fini. Il ne sait pas d'où vient son papa et ne connaît pas non plus sa maman, car il est issu d'un âne et d'une jument. Dieu n'a jamais fait cela. N'allez pas dire une chose pareille à l'égard de Dieu. Dieu n'a jamais fait cela. Dieu a dit que tout devait produire selon son espèce. Oui, monsieur. Mais un mulet est un... Son papa était un âne et sa maman une jument. C'est pourquoi il ne sait pas à qui il appartient. Il est un cheval qui essaie d'être un âne et un âne qui essaie d'être un cheval. Il ne sait pas d'où il vient. Et c'est l'animal qui a la tête la plus dure au monde. Vous ne pouvez jamais lui accorder la moindre confiance. C'est ainsi que sont beaucoup de gens dans l'Église. Ils ne savent pas qui est leur papa, ils ne savent pas qui est leur maman. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'ils sont soit presbytériens, méthodistes, baptistes, pentecôtistes ou autres. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Un vieil âne, vous pouvez crier après lui autant que vous voulez, il restera là, dressera ses grandes oreilles et regardera. Vous pouvez leur prêcher la nuit durant, et n'en savent pas plus quand ils partent que lorsqu'ils entrèrent. C'est vrai. Ce n'est pas mon intention d'être blessant, mais je désire seulement vous dire la vérité. Mais il y a une chose qu'ils peuvent faire, c'est de travailler dur. Oh, ils travaillent. Cela me rappelle ces Arméniens qui essaient toujours de travailler pour entrer au ciel. C'est vrai, un mulet. Toutes les sociétés d'aide féminine, elles sont soupées de poulet pour payer le prédicateur. Ils pensent qu'il nous suffit d'avoir cette soirée dansante et mettre en action nos œuvres sociales. En résumé, de travailler. Et ils, pourquoi travaillent-ils? Demandez-leur, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Ils dresseront leurs oreilles, sans savoir d'où ils viennent. Que voulez-vous dire? Où prenez-vous ça? Que voulez-vous dire par le Saint-Esprit? J'ai jamais rien entendu à ce sujet. Oh, vous devez être une sorte de fanatique. Voyez-vous, ils ne savent pas non plus qui était papa ou maman. Et vous devez les battre pour tout. Battre ici et battre là, et battre ici et battre là. C'est vrai, un vieux mulet. Mais laissez-moi vous dire que vous n'avez pas besoin de faire ça à un cheval pur sang. Faites simplement claquer le fouet au-dessus de lui, une fois. Et frère, il est déjà parti. Il sait ce qu'il fait. Oh, combien c'est agréable de monter un pur sang. Combien c'est agréable. Vous lui dites, vas-y. Oh, mes amis, vous feriez mieux de bien vous tenir, car il laisserait facilement la selle suspendue dans l'air. C'est ainsi avec de véritables chrétiens pur sang. Alléluia! Recevez le Saint-Esprit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et déjà, il est parti. Sans attendre, ils courent aussi vite qu'ils peuvent pour arriver à l'eau. Ils ne peuvent trouver de repos ni de jour ni de nuit jusqu'à ce qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Vous savez, un chrétien sait qui est son papa. Voyez-vous, il faut deux personnes pour faire une naissance. C'est vrai, papa et maman. Le mulet ne sait pas lequel est son papa et laquelle est sa maman. Mais nous savons qui est papa et maman, car nous sommes nés de la parole de Dieu, écrite et confirmée par l'Esprit. Pierre a dit le jour de la Pentecôte, si vous vous repentez, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et frère, un véritable chrétien né de nouveau, oh là là, son esprit, aussitôt qu'il reçoit la parole, il reçoit le Saint-Esprit, alors demandez-lui quelque chose. Il connaît sa position. Croyez-vous à la guérison divine? Amen. Croyez-vous à sa deuxième venue? Amen. Demandez cela à un mulet. La religion du mulet. Je ne sais pas. Dr. Jones a dit une fois, vous suivez les traces de Saül, voyez-vous? Oh, ils ne savent pas. Eh bien, je vous dirai que mon église n'est pas sûre. Oh, frère, mais un homme ou une femme né de nouveau est tout aussi sûr de la venue du Seigneur Jésus. Ils sont aussi sûrs qu'ils ont le Saint-Esprit, puis un Saint-Esprit qui peut être donné. La femme au puits dit à Jésus, nous adorons sur cette montagne, et les Juifs adorent à Jérusalem. Il répondit, femme, écoute mes paroles. L'heure vient, elle est déjà venue, où le Père demande que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ta parole est la vérité. Et quiconque lira la Bible, croira chaque parole de cette Bible et suivra ses instructions, recevra le même Saint-Esprit, de la même manière qu'eux, avec les mêmes résultats, avec la même puissance que lorsqu'ils le reçurent. Il sait qui sont ses parents. Il sait qu'il est lavé dans le sang de Jésus-Christ, né de l'Esprit, rempli de l'onction de Dieu. Il connaît sa position. Assurément, il est dans Canaan. Il sait d'où il vient. C'est ainsi avec un véritable chrétien. Demandez-lui, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Amen, frère. Je me tenais l'autre jour auprès d'une sainte âgée de 82 ans, qui parlait à son pasteur âgé, lui, de 80 ans. Je lui dis, grand-maman, elle avait une grande vivacité d'esprit. Elle répondit, oui, mon fils. Je lui dis, combien de temps cela fait-il depuis que vous avez reçu le Saint-Esprit? Elle répondit, gloire à Dieu, je l'ai reçu il y a 60 ans. Maintenant, cela avait été une mule, elle aurait dit, attendez une minute, j'ai été confirmé et aspergé quand j'avais, elle me prie dans l'église, et j'ai porté ma lettre à telle personne. Oh, miséricorde, ils ne savent même pas d'où ils sont. Mais elle savait d'où venait son droit d'aînesse. Elle était là quand cela est arrivé. Elle est née d'eau et d'esprit. Elle le savait, elle avait été purifiée par le lavage d'eau, par la parole. Cela nécessite la parole. Maintenant, observez bien à qui s'adresse cet épître. À ceux qui sont en Jésus-Christ. Paul. Maintenant, souvenez-vous-en, je prends beaucoup de temps, et je n'arriverai pas à terminer ce chapitre, mais je vais me dépêcher. Aimez-vous cela?
Amen.
Oh, il nous dit où nous sommes. Mais nous ne pouvons pas le faire d'un soir. Nous avons besoin d'un mois ou deux pour l'approfondir. Chaque soir, en le prenant mot après mot. En retournant à l'histoire pour le confirmer, le prenant mot après mot pour vous montrer que c'est la vérité. Maintenant, laissez-moi lire de nouveau ce verset rapidement. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pas par la volonté des hommes, aux saints qui sont à Éphèse, est une conjonction, aux fidèles en Jésus-Christ. Ceux qui ont été appelés à se séparer, ont été baptisés du Saint-Esprit et qui sont en Jésus-Christ. C'est à vous, mes bien-aimés, que j'adresse cet épître. Oh, je pense à Paul qui doit être là-bas avec eux en ce moment. Oh, combien il doit être heureux. Cet apôtre il a eu sa tête coupée là-bas. Je suis allé à proximité de l'endroit où ils lui coupèrent la tête. Mais oh, sa tête est de nouveau à sa place. Et ce nouveau corps ne peut plus être jamais décapité. Il est là-bas avec eux à cette minute même. Le même apôtre qui écrivait ceci et qui dit, à vous qui êtes en Jésus-Christ, dans un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Maintenant observez que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes, oh, tu entends ça, Charlie? Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Pas seulement quelques-unes aux apôtres et quelques-unes à celui-ci, mais il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Le même Saint-Esprit qui tomba le jour de la Pentecôte est le même Saint-Esprit qui est ici ce soir. Le même Saint-Esprit qui fit crier Marie et parler en langue, qui lui donna un moment merveilleux, la réjouissant par les choses qu'elle faisait, est le même Saint-Esprit présent au milieu de nous ce soir. C'est le même Saint-Esprit qui laissa Paul dans ce vieux bateau, qui semblait vouloir couler et qui naviguait depuis 14 jours. Pendant la nuit, il n'y avait ni lune ni étoile, et sur chaque vague, on pouvait voir un démon étinceler et grincer des dents, disant, « Je vais te noyer, mon gars, je t'aime maintenant. » Pendant que Paul descendait pour aller prier, un ange se tint là et lui dit, « Ne crains pas, Paul. » Ce vieux bateau va faire naufrage sur une certaine île. « Vas-y, tu peux manger ton dîner, c'est en ordre maintenant. » Le voilà qui s'avance, ses petits bras liés de chaînes, elle les tire avec ses pieds. Il dit, « Homme, prenez courage, car le Dieu, l'ange du Seigneur dont je suis le serviteur, m'est apparu et m'a dit, « Paul, ne crains point. » Ce même Saint-Esprit est ici ce soir. Le même Saint-Esprit de Dieu est là pour nous accorder les mêmes bénédictions spirituelles. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Oh, arrêtons-nous encore une minute ici. Dans les lieux célestes. Pas n'importe où, mais dans les lieux célestes. Nous sommes ensemble dans les lieux célestes. Cela veut dire que la position du croyant, que si j'ai été en prière, si vous avez été en prière, et si l'Église tout entière a prié, nous sommes prêts à recevoir le message. Nous nous sommes rassemblés en tant que saints, appelés, baptisés du Saint-Esprit, remplis des bénédictions de Dieu, appelés, élus, et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, nous sommes célestes dans notre âme. Nos esprits nous ont amenés dans une atmosphère céleste. Oh, frère, vous y êtes, une atmosphère céleste. Oh, ce qui pourrait arriver ce soir. Ce qui pourrait arriver ce soir, nous étions assis ici dans une atmosphère céleste. Le Saint-Esprit passant sur chaque cœur régénéré qui est devenu nouvelle créature en Jésus-Christ. Tous les péchés seraient sous le sang, dans une adoration parfaite, avec nos mains levées vers Dieu et nos cœurs élevés, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Adorons ensemble, ensemble dans les lieux célestes. Vous êtes-vous déjà assis dans l'un d'eux? Oh, je m'y suis assis, jusqu'à ce que je pleure de joie et que je dise, « Oh Dieu, ne me laisse jamais quitter cet endroit. » Les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous bénissons de quelle manière? Par la guérison divine, la prescience, la révélation, des visions, la puissance, les langues, l'interprétation de ces langues, la sagesse, la connaissance, toutes sortes de bénédictions célestes, avec une joie ineffable et glorieuse, chaque cœur étant rempli de l'Esprit, marchant ensemble, assis ensemble dans les lieux célestes. Pas une seule mauvaise pensée parmi nous, pas une seule cigarette fumée, pas une seule robe courte, pas ceci, pas cela, pas une seule mauvaise pensée, personne entraînant de mauvais sentiments vers quelqu'un, tout le monde parlant dans l'amour et vivant dans l'harmonie, tout le monde dans un commun accord étant dans un même lieu, tout à coup vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Vous y êtes. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors le Saint-Esprit tombera peut-être sur quelqu'un et dira, « Ainsi dit le Seigneur, allez à un certain endroit et faites une certaine chose. » Observez-le arriver exactement, voyez-vous. « Ainsi dit le Seigneur, faites une certaine chose à un certain endroit. » Regardez-le arriver avec exactitude. Il nous a bénis ensemble de toutes sortes de bénédictions célestes, dans les lieux célestes. Observez, en lui, Dieu nous a élus. L'avons-nous choisi ou est-ce lui qui nous a choisis? Il nous a choisis quand? Le soir où nous l'avons accepté. Il nous a élus en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans des dénominations. Dans son amour, quand Dieu nous a-t-il choisi, quand Dieu vous a-t-il choisi, vous qui avez le Saint-Esprit, Quand vous a-t-il choisi avant la fondation du monde? Et l'envoya Jésus comme victime expiatoire pour vos péchés, afin que de vous réconcilier avec lui-même dans l'amour. Oh, je souhaiterais avoir quelques minutes de plus. Permettez-moi, avant que nous allions plus loin, de revenir en arrière. Genèse 1, 26, je le prendrai mercredi. Quand Dieu créa l'homme, avant qu'il crée l'homme, il s'appelait lui-même El, E-L-L-E-L-H, Eli Elohim. Le mot signifie en hébreu « exister par soi-même ». Être tout seul, rien n'existait avant lui, il était tout ce qui existait. Il était celui qui existe par lui-même. El, Eli, Elohim. Il est celui qui est entièrement suffisant, tout puissant et qui existe par lui-même. Oh, mais dans Genèse 2, quand il créa l'homme, il dit, « Je suis Y-A-H-U, I-U-V-U-H, Yahshua, Jéhovah. » Que cela signifiait-il? « Je suis celui qui existe par lui-même et qui a créé quelque chose tiré de lui-même pour être un fils de l'homme ou temporairement ou un petit amateur, ma propriété. » Gloire! Pourquoi il donna à l'homme, Jéhovah veut dire qu'il donna à l'homme d'être un Dieu amateur, parce qu'il est Dieu le Père, et qu'il fit de l'homme un Dieu amateur, ainsi il n'existe plus par lui-même, il est simplement avec sa famille. El, Eli, Elohim. Maintenant, il est Jéhovah. Jéhovah signifiant celui qui existe avec sa famille. Dieu créa l'homme pour dominer sur toute la terre. Il avait la domination. La terre était l'empire de l'homme. Est-ce l'Écriture? Alors, si c'est son domaine, il est Dieu sur la terre. Il pouvait prononcer une parole, et c'était ainsi. Il pouvait prononcer ceci, et cela arrivait. C'est cela, Dieu Jéhovah, celui qui une fois a existé par lui-même et qui existe maintenant avec sa famille, et ses enfants sont avec lui. Vous y êtes. Maintenant, lisez-le. Nous en parlerons mercredi soir, que nous aurons plus de temps. Nous en avons encore pour une quinzaine de minutes, et ensuite nous... Je pensais que j'arriverais à un certain point ici, mais ce ne sera pas le cas. À l'endroit où il est dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Très bien. Quand avons-nous été appelés pour être des serviteurs de Dieu? Quand Orman Neville fut-il appelé pour être un serviteur de Dieu? Oh là là, cela me renverse. Eh bien, lisons quelques passages de l'Écriture. Je veux que vous cherchiez un Pierre, un Pat. Que Pat cherche Apocalypse 17:8. Et je chercherai Apocalypse 13. Maintenant, nous voulons écouter ceci. Voulez-vous savoir quand Dieu vous a appelé à être un chrétien? Oh, j'aime ceci. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Très bien, frère Neville, tu as trouvé un Pierre en 20? Eh bien, lis en 19 et en 20. Écoutez ceci. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, est manifesté à la fin des temps à cause de vous. Quand a-t-il été prédestiné? Avant la fondation du monde. Frère Pat, lisez-moi Apocalypse 17:8. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Qui sera séduit qui sera séduit par cette personne religieuse pareille à Saül, qui était si rusé, si parfait, qu'il séduirait les quoi, même les ais, s'il était possible. Très bien. Apocalypse 13, 8, laissez-moi vous le lire. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui était immolé. Quand nos noms furent-ils placés dans le livre de vie de l'agneau? Quand l'agneau fut immolé avant la fondation du monde, quand Dieu était Jéhovah, El, Eli, Elohim, celui qui existe par lui-même, c'est pareil un gros diamant, et ne pouvait être rien d'autre. Mais à l'intérieur de ce diamant se trouvait son attribut de sauveur. Dans cet attribut, il y avait quelque chose en lui qui faisait qu'il était un guérisseur. Mais il n'y avait rien à sauver ou à guérir. Mais ses attributs le produisirent. Ainsi, avant la fondation du monde, quand il sut quelle serait sa grande manifestation, qu'il serait un sauveur, qu'il viendrait, qu'il serait fait chair et habiterait parmi nous, et qu'il sut que par ses meurtrissures nous serions guéris, il immola l'agneau sur son livre avant la fondation du monde et y écrivit votre nom. Écoutez ceci, la prédestination regarde en arrière vers la prescience, je veux dire l'élection. L'élection regarde en arrière vers la prescience et la prédestination regarde vers la destinée. Ne l'oubliez pas, l'élection regarde ici en arrière. Voyez-vous, j'étais de livrée, suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Je vins au pécheur, au monde en proférant des mensonges. Né parmi les pécheurs, mon père et ma mère et toute ma famille étaient des pécheurs. J'étais livré, mais tout à coup, je suis devenu un grain de blé. Comment cela est-il arrivé? Qu'est-ce? L'élection. Dieu, avant la fondation du monde, avait appelé de livrer à devenir un grain de blé. Maintenant, je sais que je suis un grain de blé, parce que je suis sauvé. Comment le sais-je? Je regarde en arrière et je vois qu'il avait prédestiné cela. Il y a longtemps, par sa préscience, il vit que je l'aimerais. C'est pourquoi il fit une propitiation au travers de son propre fils, afin que par lui, je puisse être transformé d'une graine d'ivraie en un grain de blé. Où suis-je maintenant? Je suis sauvé. Je marche dans la grâce de Dieu. À quoi la prédestination regarde-t-elle? À la destinée, où il me prendra et où je vais. Cela doit être ainsi. Vous y êtes. Laissez-moi lire un peu plus loin, et ensuite, nous devrons terminer assez rapidement. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à l'adoption, prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Que fit-il? Dieu, par sa préscience, nous a vus d'avance, sachant qu'il était un sauveur, qu'il existait par lui-même, il n'y avait pas d'ange ni rien d'autre, seulement Dieu, El, Eli Elohim, celui qui existe par lui-même. Il n'y avait rien en dehors de lui, mais en lui était un sauveur. Eh bien, que va-t-il sauver? Il n'y a rien de perdu. Sachant cela, il sut que ce grand attribut en lui projetterait quelque chose là-bas qu'il puisse sauver. Alors, quand il fit cela, il regarda plus loin par sa préscience. Elle vit tous ceux qui accepteraient. En faisant ainsi, il dit, « Pour les sauver, la seule façon à faire sera de descendre moi-même, d'être fait chair, de prendre le péché de cet homme sur moi et de mourir pour lui, afin que je puisse être celui qui est adoré. » Parce qu'il est Dieu, un objet d'adoration. Alors il descendit, elle prit le péché sur lui. Il fit cela afin qu'il pût vous sauver, vous qui désirez être sauvés. Voyez-vous ce que je veux dire? Par préscience, le Dieu infini, qui savait toutes choses, vit l'agneau et il l'immola avant la fondation du monde. Elle mit votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Elle vit la nature trompeuse de Satan et ce qu'il ferait. C'est pourquoi il mit votre nom là-dessus. Elle dit que l'Antichrist serait si religieux, si bon, un si joli monsieur, un homme intelligent, un homme tellement religieux, qu'il séduirait même les élus si c'était possible. Mais c'est impossible, parce que les noms étaient prédéterminés avant la fondation du monde par élection. Il est choisi par prédestination et sûr où ils allaient. Vous y êtes. Maintenant, qui pourrait douter de cela? C'est ce que Paul a dit. C'est l'écriture de Paul. C'est un écrit de Paul. C'est ce qu'il enseignait à son Église, la plaçant dans sa position. Avant la fondation du monde, quand Dieu passait par les douleurs pour vous enfanter, sachant ce que vous feriez, il vous a placé dans son propre corps pour être une ménagère, pour être un fermier, pour être un prédicateur, pour être un prophète, pour être ceci ou cela. Il vous a placé. Alors, nous sommes venus des terres d'Égypte où l'on cultivait l'ail, en passant par la sanctification et en étant baptisés dans la terre promise, car la promesse de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Éphésiens 4, 30 dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Alors, Dieu ayant prédestiné l'Église dit, « Parmi ces multitudes, il y aura des millions, fois des millions de gens très religieux qui seront néanmoins séduits. Les seuls qui ne seront pas séduits seront ceux qui sont entrés dans la terre promise, dont le nom, avant la fondation du monde, était inscrit dans le livre de vie de l'agneau, et qui seront entrés dans la terre promise et en jouiront. Beaucoup de gens craignent de se mettre à agir bizarrement. Beaucoup de gens ont peur que le Saint-Esprit leur fasse faire quelque chose qui les rende honteux devant d'autres. Beaucoup de gens ont peur de se mettre à pleurer et que leur conjoint ou leur maman, un voisin ou un chef les voient pleurer. Laissez-moi vous parler d'un homme avant de terminer. Il y avait un homme du nom de David. L'arche de Dieu s'était trouvée dans le pays des Philistins et elle revenait tirée par de vieux bœufs. Quand David vit l'arche arriver, il portait une petite toge. Il courut là-bas et se mit à sauter, à crier, à sauter, à danser, à sauter, à danser. Lui, le roi d'Israël. Et sa femme, regardant par une fenêtre, le vit agir d'une façon si étrange qu'elle le méprisa. Elle a probablement dit, quel idiot, regardez ce qu'il fait, il saute et se conduit comme un fou. Ce soir-là, quand il rentra, elle lui dit ceci, tu m'as terriblement gêné, toi le roi, mon mari, en agitant comme tu l'as fait. Et David de répondre, demain, je ferai encore mieux que ça. Ah, oui, monsieur. Il dit, ne sais-tu pas que c'est devant l'Éternel que je dansais? Il avait passé de l'autre côté. Il était dans la terre promise. Il avait perdu tout son style et les convenances de ce monde. Il était si heureux de savoir que l'arche entrait dans sa propre ville. Oh, je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont peur de recevoir le Saint-Esprit. Ils ont peur de parler en langue. Ils ont peur que quelqu'un dise, il est maintenant l'un de ceux qui parlent en langue. Ils ont peur de venir à l'église et d'être baptisés au nom de Jésus-Christ, parce qu'ils en ont honte. Oh! Quelqu'un a dit que je devais retirer mes bons de la circulation, parce que j'avais prêché au sujet du baptême au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas l'intention de les retirer, j'en fais seulement davantage, c'est vrai. J'en fais plus. C'est la Bible. S'ils n'ont pas apprécié ce que nous avons fait hier, regardez simplement ce que nous allons faire demain. C'est la chose à faire. Voyez-vous, continuez à aller de l'avant. Il n'y a pas de fin à cela, parce que cela vient du Seigneur, c'est Dieu. Savez-vous ce que Dieu fit? Dieu regarda du ciel et dit, « David, tu es un homme selon mon cœur. » David n'avait pas honte. Il était un serviteur de l'Éternel. Il aimait le Seigneur. Il était si heureux, si rempli de joie, qu'il ne pensa pas un instant au prestige humain. Vous voyez, comme je l'ai dit dans mon sermon ce matin, nous avons tellement peur que nous voulons un Saül pour nous enseigner. Nous voulons un Saül venant d'un séminaire pour nous dire comment nous devons pratiquer notre religion et comment nous devons agir. Mais c'est de l'autre côté du Jourdain. De ce côté-ci, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Ici, vous êtes hors de cette saleté. Ici, vous ne vous souciez plus de ce qu'il pense. Ici, vous êtes mort et votre vie est cachée en Christ, est scellée par le Saint-Esprit. Vous ne vous en souciez pas. Vous vivez dans Canaan. Vous pouvez supporter du bon blé. Vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous êtes lié pour la terre promise. Je me souviens m'être trouvé là-bas, frère Collins, il y a environ 30 ans, quand cette église n'était pas encore construite. J'avais une petite réunion sous tente, ici au coin de la rue. C'était ma première réunion. Je prêchais le même évangile, la même chose, les richesses insondables de Christ, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, enseignant que nous devions croire que chaque parole est la vérité, le baptême du Saint-Esprit, la guérison divine, la puissance de Dieu comme je la prêche maintenant. Je n'ai jamais varié d'un centimètre sur aucun de ces points. Dieu, avec le temps, s'est seulement révélé davantage à moi. Et je l'apportais au fur et à mesure. Il n'enlève jamais ce qui est avant, mais il ne fait qu'en ajouter davantage. Je me tenais là-bas et alors qu'environ 500 personnes se tenaient sur la rive. Elles chantaient « Je me tiens sur la rive du Jourdain impétueux et je jette un coup d'œil envieux sur le beau et heureux pays de Canaan où se trouvent mes possessions. Quand atteindrai-je cette rive salutaire où je serai pour toujours béni? Quand l'atteindrai-je et serai-je à mon repos avec mes pères pour toujours ?» Quand ils commencèrent à chanter, j'emmenai un garçon dans la rivière pour le baptiser au nom du Seigneur Jésus. Je dis, « Père Céleste, je t'apporte ce garçon sur sa confession. » Je n'étais qu'un jeune homme moi-même. J'en ai les photographies à la maison. Et je dis, « Alors que je le baptiserai d'eau, Seigneur, sur sa confession au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, toi, remplis-le du Saint-Esprit. » Et à ce moment-là, quelque chose se mit à descendre en tournoyant, en tourbillant. L'étoile brillante du matin se trouvait là. Il y avait cette lumière que vous pouvez voir sur cette photographie. Elle était là, et cela là autour du monde, jusqu'au Canada. Elles déclarèrent, une lumière mystique est apparue au-dessus d'un prédicateur baptiste local, alors qu'il baptisait. Il y a quelques jours que le docteur Lamza est venu vers moi, ne sachant rien à ce sujet, il m'a apporté une photographie qu'un frère a maintenant avec lui. Avez-vous cette photographie, la vie dans laquelle vous l'aviez mise? Très bien. C'est la photographie de l'ancien signe hébreu de Dieu, exactement telle qu'il existait du temps de Job, avant même que la Bible soit écrite. Ainsi c'était Dieu dans ses trois attributs, pas trois dieux, mais un Dieu dans trois attributs, Père, Fils et Saint-Esprit, trois offices dans lesquels Dieu a œuvré, non pas trois dieux, mais trois attributs. Elles étaient là. Ce grand homme, Dr. Lamza, le traducteur de la Bible Lamza, quand il dit ce matin-là, quand je lui dis cela, je lui demandais, quel est ce signe? Il répondit, c'est l'ancien signe de Dieu en hébreu. C'est un Dieu en trois attributs. Et j'ajoutais, tel que Père, Fils et Saint-Esprit. Il s'arrêta, posa sa tasse de café, puis me regarda. Jean, je crois que vous étiez Léo. Et il dit, croyez-vous cela? Je lui répondis de tout mon cœur. Il dit, hier soir, alors que je me trouvais à votre réunion, frère Branham, j'ai vu ce discernement. Je ne l'avais jamais vu auparavant en Amérique, ni dans mon pays. Il ajouta, ces Américains ne connaissent même pas la Bible. La seule chose qu'ils connaissent, c'est leur dénomination. Ils ne connaissent même pas leur position. Ils ne connaissent rien. Mais quand je me suis trouvé là-bas hier soir, maintenant, frère Jean, je dis ceci avec révérence et amour. Il dit, je dis, ce doit être un prophète. Quand je vois que vous croyez que Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas trois dieux, mais seulement des attributs, alors je sais que vous êtes un prophète de Dieu, ou cela ne vous serait pas révélé de cette manière. C'est un signe parfait. Vous n'êtes pas unitaire. Je répondis, non, monsieur, je ne suis pas unitaire. Je crois en Dieu comme étant le Dieu Tout-Puissant, dont les trois attributs sont seulement trois offices dans lesquels ce Dieu unique a vécu. Il dit, c'est merveilleux. Il ajouta, un jour vous répandrez votre sang sur la terre pour cela, mais les prophètes meurent toujours pour leur idéal. Et je dis, qu'il en soit ainsi s'il plaît à mon Seigneur. Le traducteur de la Bible, Lamza. Oh, c'est si vrai. Combien de fois ai-je dit à cette église comme Samuel, avant qu'il choisisse Saül, avant que vous alliez vous joindre à une certaine dénomination, et que vous vous trouviez immobilisé dans une certaine église, pourquoi ne laissez-vous pas le Saint-Esprit vous conduire? Pourquoi ne prenez-vous pas Dieu comme conducteur? Laissez-le vous bénir et oubliez votre dénomination. Maintenant, je ne dis pas, n'appartenez pas à une église dénominationnelle. Vous pouvez appartenir à celle que vous voulez, c'est votre affaire. Mais je vous parle en tant qu'individu. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Et ce que la Bible dit de faire, faites-le. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, j'ai attendu longtemps. Je me demande s'il y a ici quelqu'un qui veut venir dans la ligne de prière. Si c'est le cas, voulez-vous lever la main? 1, 2, 3. Très bien. Ainsi, venez ici et mettez-vous là, si vous le voulez bien. Et nous prierons et ensuite nous. Je ne veux pas encore que vous partiez, car je veux faire ici quelque chose d'autre, officiellement, avant de terminer. Combien aime l'étude du livre des Galates? Oh, je veux dire des Éphésiens. Mercredi soir, nous parlerons du sceau. Et ensuite, dimanche matin prochain, nous traiterons du placement de l'Église. Oh, c'est... Nous verrons probablement cela mercredi soir qui vient, pour vous qui êtes ici à Jeffersonville. Nous placerons l'Église là où elle doit être, ceci pour chacun d'entre nous, montrant que nous sommes appelés à l'adoption. Dieu nous a adoptés comme fils. Nous sommes des fils par la naissance, adoptés et placés par le Saint-Esprit. Regardez, ils étaient tous des Hébreux quand ils traversèrent la rivière. Mais Josué divisa le pays. Il donna à chacun sa terre selon ce que leur mère avait exprimé à leur naissance, sous l'onction du Saint-Esprit. Regardez Jacob quand il était prêt de mourir. C'était un prophète et il était devenu aveugle. Il remonta ses pieds sur son lit et dit, « Avancez, fils de Jacob, et je vous dirai où vous serez dans les derniers jours. » Oh! Oh, je sais que je peux paraître étrange. Les gens peuvent paraître étranges, mais oh, si vous saviez seulement l'assurance, le feu qu'il y a dans mon cœur. Avancez, et je vous dirai où vous serez dans les derniers jours. Et je peux prendre cette même écriture et vous prouver au moyen d'une carte, montre l'endroit où se trouvent les Juifs aujourd'hui, qui sont exactement à l'endroit où Jacob a dit qu'il serait dans les derniers jours. Auparavant, il n'y avait jamais été jusqu'à ce qu'ils y retournent le 7 mai 946. C'était la nuit où l'ange du Seigneur m'est apparu là-bas et m'a envoyé pour accomplir cette mission. Et je peux vous montrer que lorsqu'ils revinrent dans leur pays, ils posèrent leurs pieds exactement à l'endroit où Jacob avait dit qu'ils seraient. Et c'est là qu'ils sont aujourd'hui. Oh là là, oh là là. Nous sommes un jour plus près de notre demeure future. Mes chers amis, vous êtes malade, sans quoi vous ne vous tiendriez pas ici, simplement pour être debout. Je suis votre frère. J'ai reçu la commission de la part de Dieu de prier pour les malades. Ce n'est pas que j'ai la puissance de guérir, ce n'est pas le cas, mais j'ai la puissance de la prière. Comme je l'ai dit ce matin, David n'avait rien d'autre qu'une petite fronde. Mais il dit, je sais ce qu'elle fera, accompagnée de la puissance de Dieu. Voyez-vous, je n'ai qu'une courte prière à présenter en votre faveur. Et mes mains posées sur vous. Mais je sais ce que la foi en Dieu peut faire. Elle l'a fait pour d'autres, elle le fera pour vous. Maintenant, croyez-le alors que vous vous approchez. Je me rends ceci si efficace que je vais demander à mon frère de venir ici et de les oindre d'huile. Es-tu d'accord de le faire, frère Neville? Je vais demander à l'Église d'incliner la tête dans la prière. Maintenant, souvenez-vous, la semaine dernière que j'étais si malade, à cause de cette huile de ricin, j'aurais donné n'importe quoi pour que quelqu'un vienne m'imposer les mains. Si quelqu'un avait passé vers moi et que Dieu m'ait baigné et aidé, je l'aurais tellement apprécié. Vous vous sentez tous maintenant comme je me sentais alors. Vous voulez que j'agisse comme je désirais que quelqu'un le fasse pour moi à ce moment. Que Dieu me garde de me dérober à mon travail. Bien que je sois fatigué, épuisé, que je puisse à peine mettre un pied devant l'autre, laisse-moi aller toujours. Parce que je vais rencontrer chacun de vous de nouveau dans ce pays, là-bas. Frère Branham commence à prier pour les malades. Amen.